Voilà, et on va tester du son silencieux.
On va le poser sur la table.
Voilà.
J'espère. Je vous en prie pour vous présenter. Ce soir, on a la grande joie d'accueillir Éric Lebrun. Donc, vous êtes organiste avant tout. Pour commencer par les meilleures choses. Hein.
Mais votre principale qualité, c'est d'être le professeur de guillemette.
Voilà, vous avez aussi tout un travail de toute la musique. Donc là, vous venez nous parler de la mise en musique des psaumes, des déploiements, au-delà juste du na 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 on change de mouvement. Voilà, nous écoutons.
Eh bien, merci beaucoup, Guillemette. Merci beaucoup de m'avoir proposé cette thématique qui n'est pas très ordinaire, à vrai dire. Je vais vous parler de la mise en musique de psaumes de 1610 à 2015, c'est-à-dire un peu plus de 4 siècles, dans un déploiement artistique un petit peu élaboré à chaque fois. Alors la particularité de ces psaumes, c'est qu'ils sont très souvent l'occasion d'une musique élaborée et en pleine évolution. Les auteurs dont je vais parler sont des grands compositeurs, et je veux dire des compositeurs qui ont participé à l'évolution du langage musical et de la musique en général en Occident. On pourrait penser que la musique religieuse est un petit peu à la traîne derrière d'autres formes d'expression. Pas du tout. En l'occurrence, c'est absolument simultané, voire en avance, par rapport à certaines œuvres du répertoire profane. Je vais commencer tout de suite avec une œuvre très emblématique. Il s'agit des Vêpres de la Vierge de Monteverdi. Dans les Vêpres de la Vierge, composées en 1610, vous avez un certain nombre de psaumes. Alors j'ai choisi le psaume 112. Donc voici les paroles qui vont être chantées. « Serviteur de l'Éternel, louez, louez le nom de l'Éternel, que le nom de l'Éternel soit béni, dès maintenant et à jamais, du lever du soleil jusqu'à son couchant, que le nom de l'Éternel soit célébré. » Alors bien sûr, les paroles sont chantées en latin. Là, c'est une traduction. Claudio Monteverdi, c'est un compositeur de très grande importance dans l'histoire de la musique. Il est né à Crémone en 1567 et il est mort à Venise en 1643. C'était un musicien et un compositeur très précoce. Il avait déjà écrit de la musique à l'âge de 15 ans. Et avec lui, nous passons de l'appréhension symbolique d'un univers considéré en harmonie avec la vérité divine à l'exploration de la réalité terrestre. En effet, au Moyen-Âge et surtout à la Renaissance, la musique, elle est l'expression de l'harmonie des sphères, l'harmonie de l'univers. Je vais dire quelque chose de très bateau, mais avec les découvertes d'autres continents, il se passe quelque chose de très important qui fait qu'on se rend compte que la vision qu'on a de l'univers n'est pas tout à fait celle qu'on croyait. Et donc, pour ce qui concerne l'exploration à la fois de la comédie, de la poésie, du théâtre, de la littérature de manière générale, et de la musique, il y a cette idée qui va monter petit à petit, qu'on ne va pas rester dans les canons de l'écriture médiévale ou de la Renaissance, mais qu'on va aller vers une forme d'expression plus humaine et plus authentiquement liée aux sentiments humains. Et Monteverdi se situe exactement à cette période, c'est-à-dire il est à la fois l'héritier d'une tradition de la Renaissance avec ce qu'on appelle un contrepoint très strict, une manière, ce qu'on appelle le style ancien à l'époque, et en même temps il est un des premiers à mettre en œuvre le style moderne, ce qu'on appelle le parlare cantando, c'est-à-dire en fait l'idée de calquer la déclamation musicale sur la déclamation théâtrale ou poétique. Et donc dans sa musique, y compris dans son premier opéra, qui est considéré comme le premier opéra d'histoire de la musique, Orfeo, en 1607, il va mélanger ces deux styles. En fait, Monteverdi, comme beaucoup de grands compositeurs, c'est un homme de la synthèse. Et il compose en 1608 un opéra qui s'appelle Arianna, qui a disparu et dont il reste que le lamento, les lamentations d'Ariane, qui a perdu Thésée. Ce qui est très intéressant, là on est complètement dans le style moderne, c'est qu'il va simplement changer les paroles et ça va devenir les plaintes de la Madone, à la même époque. Donc sacré, profane, profane, sacré. Vous voyez, c'est complètement simultané. Il n'y a pas de frontière entre les deux. Et dans les Vêpres de la Vierge, donc nous allons pouvoir écouter un extrait, le fameux psaume 112, Laudate Pueri, on va avoir à la fois cette expression très fine des sentiments et en même temps une construction typiquement de la Renaissance avec ce qu'on appelle un double cœur. Alors il faut imaginer Saint-Marc de Venise, deux tribunes de chaque côté, vous savez, de chaque côté du cœur, des dorures magnifiques, la musique va avec. Vous avez un cœur à droite, un cœur à gauche, et ces deux cœurs se répondent, vous voyez, à huit voix. Donc ce qu'on appelle une polyphonie absolument magnifique. Donc, on a pris l'habitude de faire précéder ces psaumes des Vêpres de la Vierge de l'ancienne grégorienne, qu'on va entendre, et Monteverdi, et ça aussi c'est une de ses innovations, tant dans l'opéra que dans la musique sacrée, il va utiliser une instrumentation luxuriante. C'est vraiment le père de l'orchestre, alors qu'à l'époque, c'était quelque chose de relativement indifférent. Je dis ça parce que ça veut dire que chaque instrument a une fonction expressive particulière. Alors, dans cet orchestre, il y aura ce qu'on appelle la dulciane, avec des anges, les cornets, cornets à bouquin, vous savez, c'est avec une petite embouchure, les trombones, des violons, des altos, des viols de gambe, contrebasse, luth, et alors ce qu'on appelle le continuo, à partir du luth, violoncelle, orgue, ce qui permet de faire des accords pour donner plus de consistance à ce tout. Voilà, on va écouter ce Laudate Pueri, pas entièrement, parce que c'est de la musique assez développée, ça dure 8 minutes, mais pour s'en faire une petite idée. Donc ça, c'est l'ancienne grégorienne. Musicale qui est assez verticale comme ça, avec ces chœurs qui se répondent, et puis là les solistes qui font des fioritures et des choses qui correspondent à l'expression plus intime des sentiments humains. Donc c'est une œuvre extrêmement intéressante parce qu'elle propose de mettre en œuvre une véritable synthèse entre ces différents styles. Alors, changement de pays, et pas franchement changement d'époque, mais vous allez voir quelque chose de complètement différent avec Heinrich Schütz, qu'on appelait aussi en latin Sagittarius, qui a été lui-même l'élève de Monteverdi, et des frères Gabrielli. Alors les frères Gabrielli étaient des musiciens très influents qui travaillaient justement à Venise. Donc Schütz, qui est un compositeur allemand, qui est né en 1585 et qui va décéder beaucoup plus tard, ce qui est rare à l'époque, à Dresde, en 1672. Donc Schütz est un musicien qui est vraiment l'héritier de la tradition italienne. Et grâce à lui, qui va être comme Monteverdi un grand pédagogue, il va former des musiciens de toute l'Allemagne qui vont donc être en fait les petits-fils de Monteverdi. Vous voyez, c'est la généalogie. Alors Schütz est un compositeur d'une renommée tout à fait extraordinaire. Et il va également être un organiste renommé. Il va d'ailleurs commencer sa carrière à Dresde, qui était une ville magnifique, hein, d'une richesse extraordinaire, comme organiste. Mais il va se faire connaître comme compositeur, notamment de musique vocale. Et il va écrire, alors c'est une chose qui est très importante dans la liturgie protestante, car il était protestant, c'est ce qu'on appelle le concert spirituel. Vous savez, on parle quelquefois des cantates de Bach. En réalité, personne à l'époque n'appelait ça cantate. C'est nous qui appelons ça des cantates. Mais à l'époque, on disait un concert spirituel. Donc, la prédication était encadrée par une musique avant et après. Et donc, les concerts spirituels de Schütz, il y en a de plusieurs natures. Il y a une série de concerts spirituels qu'il appelle des chants sacrés en 1625, qui sont des œuvres absolument magnifiques, assez luxuriantes. Et puis, par la suite, la guerre de 30 ans va changer la donne et il va écrire ce qu'on va appeler les petits concerts spirituels, qui sont des œuvres de petite dimension avec peu de moyens. Au fond, la musique est toujours aussi belle, mais il lui faut une ou deux voix, un petit orgue et c'est tout. Et il y a beaucoup de petits concerts spirituels et la plupart sont écrits d'après des textes de psaumes, parce que le psaume est un texte éminemment poétique et qui permet aussi de faire des connexions entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Parce que certains psaumes semblent annoncer de manière assez claire l'avènement du Christ, etc. Enfin, je ne vais pas vous refaire un topo autour de ça. Mais pour un musicien protestant qui connaît la Bible absolument par cœur et qui a une croix vraiment implantée dans le cœur, on peut dire que le psaume a un sens très particulier. Alors, nous allons écouter dans ces petits concerts spirituels le psaume 51, versets 10 et 12. De 1636, c'est le concerto 10. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé, ne me rejette pas loin de ta face, ne me retire pas ton esprit saint. Rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. Ici, vous allez avoir une musique lumineuse, joyeuse. Ce n'est pas du tout un psaume de contrition, c'est au contraire l'espérance d'une transformation. Et vous allez voir cette musique très lumineuse, alors qu'elle est tout à fait dans la continuité de celle de Monteverdi. Encore une fois, avec très peu de moyens. Avec la musique de Monteverdi, c'est qu'on est en langue vernaculaire et que donc c'est une forme de prédication. Au fond, la musique pour ces musiciens protestants, c'est un moyen de convertir et d'enseigner. Donc elle a cette fonction pédagogique, cette musique. Donc il faut imaginer, dans une Allemagne complètement ruinée, un office le dimanche matin avec cette musique que tout le monde comprend. Tout le monde comprend le sens des paroles. Alors un autre musicien, alors nous franchissons cette fois un siècle, qui a une stature tout à fait internationale, c'est Händel. Händel, il est né à Halle en 1685, il va finir ses jours à Westminster. Si jamais vous allez à Westminster, vous allez marcher sur la sépulture d'Händel. C'est pour vous dire un peu le personnage quand même qui est un peu un symbole de l'Angleterre, lui tout seul. Alors qu'il est allemand, alors qu'il a fait d'abord sa carrière à l'Opéra de Hambourg, il était un compositeur de musique lyrique. Alors, précisons que l'opéra à Hambourg au XVIIe siècle, c'était un opéra dont les sujets étaient bibliques. On dit toujours, oui, l'opéra à Hambourg, c'était l'opéra du marché aux oies. En réalité, c'était toujours des histoires de l'Ancien Testament. Donc c'était convenable dans la société protestante. Et donc Händel a commencé sa carrière là, il va la continuer en Italie, et il va la finir en Angleterre. C'était un musicien qui était, comment dire, il avait des dons tout à fait exceptionnels. Par exemple, il traverse une période un petit peu difficile et un peu déprimée à Londres. Voilà, et puis il apprend qu'il y a un festival d'oratorio. Les oratorios, ce sont des histoires sacrées en musique, à Dublin. Il se dit, hop, allez, je vais prendre le bateau, je vais écrire un oratorio, puis je vais aller à Dublin pour faire connaître son œuvre. Il lui reste pas beaucoup de jours, il lui reste une dizaine de jours. Il avait composé quelques chansons d'amour, comme ça, vite fait. Il part à Dublin, et en 10 jours, il écrit Le Messie, oratorio qui dure 2h30, chef-d'œuvre absolu. C'est-à-dire qu'il a mis, à partir de quelques chansons d'amour qu'il a reprises pour faire des chœurs, plus tout le reste, évidemment, qui est énorme, ça veut dire qu'il a écrit cette œuvre colossale en moins de temps qu'il faut pour la recopier. Je ne sais pas si vous avez vu ce que ça représente. Voilà, donc Händel, c'est ça. Un bonhomme qui est capable d'écrire des opéras, des oratorios, des concertos, c'est titanesque. On ne peut pas imaginer ce que ça représente. Et donc Händel, dans sa jeunesse, il va écrire un Dixit Dominus. C'est un psaume, donc, c'est le psaume 110. Le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis un escabeau pour tes pieds. Donc ce psaume 110 a sans doute été composé au IIe siècle avant Jésus-Christ, vers 240, au moment où les 7 frères Maccabées organisent une grande révolte des Juifs de Palestine contre le roi Séleucide, Antiochos III, descendant d'un des généraux d'Alexandre le Grand. Donc la dynastie règne de la Syrie jusqu'à l'Iran, et les Maccabées veulent restaurer la très ancienne royauté religieuse juive, où le roi était aussi grand prêtre. Cela explique l'exaltation d'un roi qui serait aussi prêtre sur le modèle de Melchizedek mentionné par la Genèse. Voilà, et donc ce Dixit Dominus est une œuvre de jeunesse qui d'ailleurs va avoir un certain retentissement, enfin le thème lui-même dans la vie de Händel, puisqu'il va écrire un grand oratorio sur le thème justement de Judas Maccabée. Alors chez Händel, le psaume est divisé en plusieurs sections. Chaque section étant un grand morceau de musique à part entière. Donc par exemple, il va prendre 3 versets, il va en faire un grand morceau avec chœur et orchestre extrêmement brillant. Alors Händel est un compositeur à la manière italienne. C'est-à-dire que d'ailleurs Bach aussi, il va utiliser tous les ressorts de la musique italienne moderne. Vous voyez, on avait vu déjà la même chose un siècle auparavant, ça continue. Et donc ce Dixit Dominus est typiquement quelque chose qui aurait pu être composé par Vivaldi par exemple, qui lui-même d'ailleurs a écrit aussi des psaumes, ou Marcello, qui a écrit beaucoup de psaumes. Donc, je passe l'introduction orchestrale.
Dixit Dominus.
qu'il avait absolument le génie de la voix. Parce que vous prenez un chœur de Handel, ça peut être difficile vocalement quelquefois, mais vous le faites chanter, ça sonne tout de suite. Il sait faire. Il y a deux grands compositeurs qui ont ce génie, c'est donc Handel et Mendelssohn aussi. Mendelssohn, c'est formidable. C'est des gens qui savaient se servir de la voix humaine d'une manière incomparable. Alors, nous continuons le voyage dans le temps. Nous restons en Allemagne avec Johannes Brahms. Johannes Brahms est un compositeur qu'on voit très souvent représenté comme un vieillard avec une grande barbe. Et c'est vrai qu'il n'était pas forcément très rigolo, mais dans sa jeunesse, c'était un personnage très haut en couleur. Robert Schumann, qui l'avait découvert et qui n'en revenait pas du génie de ce jeune compositeur, l'appelait Chrysler Junior, en référence donc au récit de Chrysler. C'était quelqu'un d'exubérant, de fantaisiste, de plein de fougue, et qui va petit à petit rechercher un certain équilibre classique. Donc Brahms, c'est à la fois le romantisme absolu, et en même temps la recherche d'une manière d'expression tout à fait parfaite, un petit peu comme les poètes parnassiens, vous voyez, mais avec plus de lyrisme. Et Brahms, donc, qui est né à Hambourg, dans le nord de l'Allemagne, en 1833, et qui va donc finir sa carrière à Vienne en 1897, assez tristement, parce qu'il est mort d'un cancer qui s'était un petit peu éternisé, vous voyez, il n'a pas une fin de vie très drôle. Il était très lié à Clara Schumann, qui était donc la veuve de Robert Schumann, qui est mort très jeune, donc son maître, son mentor, si vous voulez. Et donc il va écrire pour Clara Schumann une méditation sur le sens de la vie et de la mort qui s'appelle le Requiem allemand, Eine deutsche Requiem. Et en fait, il va prendre des textes de la Bible, il va en faire son propre livret, et à partir de ça, un chef-d'œuvre qu'il va composer sur 6 ans pour Clara Schumann. Alors, le premier chœur de ce Requiem allemand emprunte d'abord à l'évangile des Béatitudes, et ensuite le psaume 126, versets 5 et 6. « Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chants d'allégresse. » Plus simplement, « ceux qui sèment dans les larmes moissonnent dans la joie. » « Celui qui marche en pleurant quand il porte la semence revient avec allégresse quand il porte les gerbes. » Et donc avant cela, « bienheureux ceux qui souffrent, car ils seront consolés. » En fait, Brahms avait écrit une de ses premières œuvres vocales avec un psaume 13 pour chœur de femme et orgue. Donc c'est déjà un projet assez ancien. C'est un être très spirituel qui avait dit un jour à un écrivain qui avait fait le tour des grands compositeurs de toute l'Europe pour qu'il se confie, et il lui avait dit « avant de composer, je prie, toujours ». Donc vous voyez, c'est quand même un état d'esprit très particulier. Alors on va écouter donc un extrait du premier chœur de ce Requiem allemand, pas dans la version pour orchestre, mais une version pour deux pianos et chœur, avec le chœur de la Sorbonne.
Thank you.
Maintenant, nous allons arriver en France. Alors évidemment, je passe au-dessus de centaines de chefs-d'œuvre. Par exemple, je ne vais pas parler de Mozart. Mozart a écrit des psaumes, notamment dans les vêpres solennelles d'un confesseur non-pontife. Un drôle de titre. Magnifique, les vêpres d'un confesseur, c'est un chef-d'œuvre absolu. Mais il y a des psaumes, bien sûr. En fait, presque tout le monde a écrit des psaumes. Mais j'étais bien obligé de faire un petit choix. Alors j'en ai choisi 7 au total. Et donc nous arrivons maintenant en France. Nous sommes en 1897 avec un personnage extrêmement sympathique qui est Joseph Guy Ropart. Il est né en Bretagne, à Guingamp, en 1864. Et il va décéder en Bretagne également, dans son manoir de Lanloup, en 1955. Alors, son père voulait qu'il vienne à Paris pour étudier le droit. D'ailleurs, beaucoup de musiciens ont étudié le droit, c'est assez curieux. Telemann, par exemple, qui était licencié en droit. Ropart rencontre César Franck, qui habitait tout à côté d'ici, puisque sa maison se trouve boulevard Saint-Michel, en face de l'école des Mines. Et César Franck, qui était le professeur d'orgue du conservatoire, mais qui était surtout en fait le mentor de beaucoup de jeunes compositeurs, lui dit « Non, vous ne serez pas organiste, mais vous pouvez être compositeur ». Alors, il est devenu très tôt un compositeur de grand talent. Et il a eu deux autres carrières en même temps. C'est qu'il a été le premier grand directeur de conservatoire en France, Nancy puis Strasbourg. Un homme fort intelligent, qui a notamment créé une sorte de sécurité sociale pour les musiciens, ce qui n'existait pas. Et puis chef d'orchestre, et en tant que tel, il a dirigé tous les grands chefs-d'œuvre de son époque pour les secondes performances, comme on dit en Amérique, en province. Vous voyez, un musicien tout à fait extraordinaire au service des autres. Et donc à Nancy, il avait fait construire une grande salle de concert, la salle Poirel. Et dans cette salle, il y avait d'ailleurs un grand orgue. Et là-bas, il dirigeait des concerts symphoniques. À l'occasion d'un de ses concerts, et en hommage à un de ses amis, un très grand compositeur français qui était Gabriel Fauré, il va écrire un psaume 136. Il y aura deux psaumes avec orchestre dans la production de Ropart. Et c'est d'ailleurs une habitude un petit peu, dans cette seconde partie du XIXe siècle en France, d'écrire des psaumes avec grand orchestre. Là, donc, il va prendre le texte du psaume 136, et comme il était poète, il va adapter les vers à sa façon. « Assis sur les berges du fleuve, dont les flots baignent Babylone, nous avons pleuré au souvenir de Sion, et dans notre deuil, nous avons suspendu aux branches des saules nos luttes désormais inutiles. » C'est du beau français, hein, c'était un poète tout à fait raffiné. Et alors ensuite, je vais couper, parce que le psaume dure plus de 15 minutes, et donc je vais vous faire entendre le passage « Seigneur, Seigneur, rappelle-toi la cruauté des fils d'Édom au jour de notre détresse. » Et là, la musique va se faire beaucoup plus animée, et vous allez entendre même quelque chose qui fait un petit peu penser au style de Handel. Voilà, donc ce psaume 136 est une des grandes pages de musique vocale française de cette époque. La musique française est en plein essor. Elle veut à la fois se distinguer de l'esthétique allemande, à cause des conditions qui ont suivi la guerre 70, hein, bien sûr. Et puis, en même temps, elle s'en inspire complètement. C'est-à-dire que la devise Ars Gallica, qui est la devise Ars Gallica, c'est la devise de la Société Nationale de Musique, en fait, c'est pour écrire de la musique allemande avec des compositeurs français. On écrit des sonates, des trios, des quatuors, des symphonies. Alors, on va écouter ce psaume 136 de Guy Ropart, qui a été enregistré dans la salle Poirel, précisément.
Thank you.
montre la cruauté des fils d'Édom. Quelques années après, et là vous allez être étonné parce qu'on n'est plus tout dans le même style, va naître une œuvre complètement improbable, qui est le psaume 47 de Florent Schmitt. Gloire au Seigneur, nations, frappez des mains toutes ensemble, chantez la gloire de Dieu, mêlez vos voix, parce que le Seigneur est très élevé et très redoutable, et qu'il est le roi suprême qui a l'empire en toute la terre. Chantez la gloire de Dieu par des cris d'allégresse, parce que le Seigneur est très élevé et très puissant. Il est très grand, puissant et très élevé. Florent Schmitt, né en 1870 à Blamont et mort à Neuilly en 1958, en fait, a obtenu le Grand Prix de Rome. Alors, c'était la consécration pour un musicien à cette époque. Il fait des classes de composition au conservatoire et on passe ce qu'on appelle le Prix de Rome qui permet d'aller composer tranquillement pendant 3 ans dans la Villa Médicis à Rome. Et de temps en temps, il faut quand même montrer qu'on fait quelque chose. Et donc, c'est ce qu'on appelle les envois de Rome. Donc, on envoie une partition à l'Institut des Beaux-Arts, qui d'ailleurs, en général, écrit un rapport plutôt défavorable, parce que les œuvres sont toujours jugées assez peu académiques. En l'occurrence, Florent Schmitt écrit, donc, au tout début du XXe siècle, un psaume complètement hirsute, une musique que personne n'avait jamais entendue à cette époque-là, et qui anticipe de 7 à 8 ans la première du Sacre du Printemps de Stravinsky au Théâtre des Champs-Élysées. C'est-à-dire, comme disait Debussy, une musique préhistorique avec tout le confort moderne. Vous voyez ce que je veux dire? Mais c'est vraiment ça. Alors, j'en dis pas plus. Vous allez écouter cette œuvre extraordinaire. Pourquoi est-ce qu'il a choisi un texte de psaume? Je ne sais pas. Il aurait pu faire n'importe quoi d'autre. Mais c'est assez extraordinaire qu'un envoi de la Villa Médicis, ce soit un texte de psaume et traité de cette manière-là. Donc, psaume 47 de Florent Schmitt. Alors vous allez voir, ça envoie, comme dirait l'autre. c'est le Schmitt de la salle Schmitt. C'est le Schmitt de la salle Schmitt. Oui, oui. C'est entre nous, ça. Alors, on va revenir à des choses plus gentilles. C'est pas par égocentrisme, mais figurez-vous que j'ai écrit pas mal de psaumes. Et je me suis dit, c'est quand même dommage que je vous parle pas d'un de mes psaumes. Quand même, parce que je suis là. Donc en 2015, c'était le jubilé des 60 ans du chœur de la maîtrise de Saint-Christophe de Javel. Et ils m'ont demandé de leur écrire un psaume 150. Très bien. Alors le psaume 150, vous savez, c'est évidemment le psaume qui va fermer le livre des psaumes et qui glorifie les instruments de musique au service du chant et de la gloire de Dieu. Ah bah très bien, alors j'avais très très peu de moyens, il fallait juste que j'ai le chœur de Javel, des enfants, puis j'avais un violoncelle, un violon et l'orgue. Il y aura bon, ah, très bien. Alors donc j'ai écrit une œuvre assez développée, en 4 parties, et en utilisant au mieux les moyens dont je disposais. Alors là, vous allez entendre un enregistrement qui a été fait en concert en 2019 dans la grande cathédrale de la Sarre, par un chœur allemand, tout à fait épatant. Donc j'ai réadapté l'œuvre pour orgue seul et chœur. Pour la petite histoire, le chœur était... On fait une petite tournée comme ça avec mon psaume 150 en Allemagne, et puis ils me disent, on va venir dans la Dillingen, ça s'appelle Dillingen, la ville. Vous allez voir, ça se passera très bien. Je me dis... Donc j'ai acheté un retour audio. Je me suis dit... La cathédrale, c'était à peu près une fois et demie, une trentaine de Paris, le chœur était tout au bout. Heureusement, j'avais prévu le coup, mais enfin, c'était quand même un chœur fantastique et c'était une expérience. Alors voilà. Alors j'ai eu le choix de la traduction. Donc j'ai pris la très belle traduction du Maître de Sacy. Vous connaissez peut-être cette traduction de la Bible qui est extraordinaire. Le Maître de Sacy, c'était un ami de Blaise Pascal. C'était un écrivain, un poète, comme Jean Racine, qui était à Port-Royal. Alléluia, qui suit Noël, qui fait le lien entre les différentes parties de la pièce. Est-ce que le psaume se termine par Alléluia ? Je commence par Alléluia. Donc. Thank you. un petit extrait pour finir de la partie centrale. Le son de la trompette. Là, je me suis un petit peu amusé à faire des imitations de sonneries de trompette. Exprès, mais les cloches se sont mises à sonner au moment de l'ouvrir. Ça, c'est un passage qui est parmi. Bon, c'est une œuvre qui dure presque 20 minutes, hein, donc je ne vais pas vous la faire entendre en entier, mais je suis content de vous faire entendre ça. Alors, on a pu avoir comme ça un petit panorama sur 4 siècles des différents moyens d'expression qui ont été mis en œuvre autour de ces fameux psaumes. Vous voyez qu'on a à la fois des moyens qui sont mis en œuvre qui sont très variés. Ça peut être seulement deux chanteurs et un petit orgue dans le cas de Schütz. Ça peut être pour l'époque des moyens colossaux pour Monteverdi qui veut être à la hauteur de l'événement, un grand office de vêpres imaginaire parce qu'on n'a aucune trace de ce qui s'est passé réellement à Saint-Marc de Venise. Ou bien ça peut être ces grandes musiques extrêmement populaires dont Handel avait le secret, ou encore l'explosion de l'orchestre et du chœur à l'époque romantique, aussi bien en France qu'en Allemagne. Et bien évidemment, le XXe siècle étant le siècle de la démesure, on a pu en avoir un exemple éloquent avec Florent Schmitt. Mais ce n'est pas le seul. Vous avez une jeune compositrice qui est décédée à l'âge de 18 ou 19 ans, je ne sais plus exactement, Lili Boulanger, qui avait écrit plusieurs psaumes avec grand orchestre. C'est vous dire si quand même ce genre avait fécondé l'imagination même de très jeunes compositeurs et compositrices. Voilà, alors je crois qu'il y a un petit temps de questions. Voilà, c'est pour ça que je ne m'étends pas et je suis à votre écoute.
Ah. moi j'en ai deux. Non, le premier truc c'est sur Monteverdi, là, le style moderne ancien dont vous parlez, c'est la prima pratica, secunda pratica.
Oui, c'est ça. Okay. C'est ça. Il y a le style antique qui est en fait le style polyphonique, non, et puis un style moderne qui est plutôt basé sur la voix soliste, et la voix va déclamer en fait en se calant vraiment sur les paroles, aussi bien au niveau de la prosodie, mais pas toujours, surtout au niveau du sens du texte. Voilà. Cela dit, ce qu'on appelle le madrigalisme, le fait d'épouser le sens du texte, c'était déjà dans l'ancienne manière, en fait, parce que le madrigal, ce qu'on appelle le madrigal, le poème mis en musique, il pouvait l'être avec des moyens anciens. Mais un exemple très simple, un grand désespoir, on va faire un grand accord très long sur le mot grand, tout simplement. Et c'est ce qu'on appelle un madrigalisme. Et donc, quand c'est de la parole, une voix soliste, alors là, ça va être beaucoup plus serré, parce qu'on peut exprimer la fureur de façon, par exemple, beaucoup plus éloquente et facile. Hein, voilà. Donc, c'est bien, il s'agit bien de cela.
Mais du coup, en fait, j'ai l'impression que, dans tout ce que vous avez fait écouter, il n'y a pas vraiment de souci d'usage liturgique.
Ah non, non, là, on parle de musique qui...
Enfin, ah non, pas du tout. Ça n'a jamais été composé, enfin, tout ça... Pour... Enfin, c'était toujours dans un but juste de concert. Quoi,
alors, pas les concerts spirituels de Schütz qui étaient donnés à l'office, mais le cas de l'église protestante est un peu à part par rapport à ce qu'on imagine dans l'église. Alors, en France, on a une habitude, sous l'Ancien Régime, on va dire, c'est que Louis XIV allait à la messe tous les jours, mais il voulait que la messe ait de l'allure, et pour tout dire, la messe en tant que telle, ça ne l'intéressait pas tant que ça. Donc, c'était recouvert d'un grand motet. Souvent, c'était un psaume. Et donc, ce grand motet, donc c'était pour chœur et orchestre. Hein. Donc, on a des motets de Lully, par exemple, des motets de Rameau, par la suite, au XVIIIe siècle. Des motets de Dumont, compositeur franco-belge. Et donc, ça recouvrait l'office. Mais ça n'était pas de la musique liturgique, c'était de la musique par-dessus l'office. D'accord ? Comme si on mettait un disque à fond pendant une messe, par exemple. C'est un peu ça l'idée. Donc, il y a ça. Ce qu'on a entendu aujourd'hui, donc Schütz, c'est pour le culte protestant. Les vêpres de la Vierge, c'est pour des vêpres imaginaires. Enfin, en tout cas, on ne sait pas exactement. Voilà, mais voilà. Peut-être que ça a été donné, mais on... Bon, en tout cas, c'est des vêpres pour lesquelles il faut des moyens, quoi. Ça, c'est sûr. Alors, par ailleurs, beaucoup de pièces de répertoire sacré étaient données exclusivement à l'Église, mais on faisait venir aux offices les gens un peu comme à l'opéra, pour écouter une œuvre. Par exemple, le Requiem de Forêt avait été donné pour la première fois à la Madeleine, lors d'un office du bout de l'an, c'est au bout d'un an, vous savez, après les funérailles de quelqu'un, voilà. Et donc c'était à l'occasion des funérailles d'un architecte, Le Sous-Fâché, que a été donné le Requiem de Forêt, et il a invité le tout Paris à venir écouter son Requiem. Donc il y avait cette espèce d'ambiguïté, à la fois de la musique de concert, dans un office, on fait venir des gens pour venir l'écouter, et puis de l'autre, au théâtre ou dans la salle Poirel à Nancy, psaume de Repart, de la musique symphonique avec chœur, qui est en fait une musique de concert, mais d'inspiration biblique. Voilà. Mais dans ce que vous avez entendu aujourd'hui, et dans d'autres exemples qu'on pourrait trouver, c'est pas à proprement parler de la musique liturgique, la plupart du temps. C'est tout l'intérêt de cette histoire, d'ailleurs, de se dire, le psaume, il a une fonction liturgique, et puis il a une fonction culturelle à part entière, comme un élément du patrimoine commun en Occident. Pratique le psaume comme n'importe quel autre poème, finalement. Et vous avez une question?
Non, mais en fait, en prenant des notes, j'ai entendu le nom de Guy Repart.
Oui.
Et je pensais que c'était... On a fait la faute, on l'a fait en un seul mot. En fait.
Ah oui, c'est Joseph Guy Repart. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui.
J'ai une question. C'était pas trop du tout le domaine de la conférence, mais je me demandais dans le gospel, est-ce qu'il y a eu un aspect musique savante qui s'est développé ou pas? Parce que j'imagine qu'ils chantent des psaumes. Mmh. Et quelle est la spécificité de ce genre particulier, notamment dans l'utilisation de la voix?
Alors, effectivement, dans le gospel, on utilise des psaumes, on utilise des passages de l'Ancien Testament aussi, des passages du Nouveau Testament, un petit peu comme ce qu'on a vu aujourd'hui, par exemple avec Brahms, qui prend des morceaux et qui ont fait... Alors, le gospel, en fait, le gospel vient d'une pratique du chant liturgique protestant au départ, qui a été petit à petit un petit peu déformée, et qui est devenue quelque chose avec une identité très particulière, qui est évidemment très attaché à la culture noire africaine, américaine, mais d'origine africaine, de fait. Et donc avec, comment dire, l'utilisation de la voix d'une manière très dansante, très expressive aussi, en utilisant des harmonies nouvelles qui vont petit à petit féconder le domaine du jazz. En fait, c'est plutôt la liturgie protestante qui, avec l'usage que vont en faire les communautés noires aux États-Unis, va donner en fait un nouveau vocabulaire musical qui va donner petit à petit le jazz. C'est dans ce sens-là. Donc c'est parti de l'Église, en fait. Voilà. Avec des couleurs très particulières et toujours très appréciées aujourd'hui. Alors, il y a aussi une chose, c'est que le gospel, généralement, est chanté avec une sorte de mini-chorégraphie. C'est-à-dire que les chanteurs bougent, ils évoluent. C'est pas figé comme généralement en Occident. Mais maintenant, les choses changent. Il y a beaucoup d'ensembles vocaux, notamment jeunes, qui font de véritables mises en scène, chorégraphies, qui restent pas statiques, comme autrefois. D'ailleurs, cette question de l'utilisation de l'espace a beaucoup évolué, parce que autrefois les orchestres eux-mêmes étaient toujours en gradin, ce qui n'existe quasiment plus aujourd'hui. Donc il y avait un petit côté encore plus vertical autrefois. Voilà. Est-ce que j'ai pas utilisé des mots trop compliqués, parce que les musiciens des fois ils ont des trucs là, ils utilisent des termes mais qui sont un peu techniques. Est-ce que ça va? Vous avez bien tout compris? Oui, parce que je me méfie beaucoup de l'entre-soi entre les musiciens, c'est terrible. Voilà. Oui.
Vous avez pas beaucoup parlé de Bach.
Non, ben en fait. Oui, alors oui, effectivement, j'ai pas parlé beaucoup de Bach. Alors c'est pas forcément évident, parce que en fait Bach a pas écrit de livret de cantate lui-même. Ce travail a été fait par plusieurs ce qu'on appelle des librettistes, notamment un qui s'appelle Picander, qui était plutôt un librettiste de fantaisie, on ne sait pas pourquoi il s'est retrouvé à écrire des textes de cantate, et aussi une femme, ce qui était quand même assez extraordinaire au début du XVIIIe siècle, c'est pas si courant, qui a écrit des livrets de cantate. Effectivement, on trouve des passages bibliques et des extraits de psaumes dans les cantates, mais il n'y a pas de psaume de Bach, je veux dire, en tant que tel. Là, vous avez eu un psaume de repart, par exemple, des psaumes de chute. Voilà, chez Bach, c'est quelque chose de beaucoup plus diffus, de beaucoup plus ponctuel. Et ce n'était pas sa volonté, a priori. Voilà. Alors que, par exemple, dans le Messie de Handel, on a des psaumes, vraiment, parce qu'il y a cette relation toujours entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Et alors, je n'ai pas parlé d'une œuvre, par exemple, comme le Roi David de Néguer, sur un texte de René Morax, là, dans les années 20, pour un théâtre de plein air. Et là, il évoque la vie du Roi David. Et la vie du roi David, en fait, est ponctuée tout le temps par un psaume. C'est-à-dire, il se passe un événement, toc, on a un psaume, mais de manière très vivante, c'est assez extraordinaire. Donc là, on a des œuvres comme ça qui ne s'appellent pas psaumes, pour le coup, mais qui sont ponctuées par des psaumes. Puis alors, il y a une œuvre très importante de Igor Stravinsky, qui s'appelle Symphonie de psaumes, qui est une symphonie en trois mouvements, chaque mouvement étant en fait constitué d'un grand psaume, pour chœur et orchestre. Stravinsky était incollable pour reconnaître les saints dans les statues. Ah, ça c'est... Alors les saints les plus improbables. Hein. Voilà. C'est un peu inattendu. Hein. Dans le Sacre du Printemps, bah oui, mais il y avait aussi ce côté-là chez Stravinsky. Encore des questions? Oui?
En fait, je ne suis pas sûr d'avoir très bien compris la différence entre le style ancien et le style moderne. Est-ce que vous pourriez décrire plus précisément comment le texte se cale par rapport à la mélodie? Est-ce que c'est que dans le style moderne, il y a plus de... Moi j'avais l'impression, quand vous avez dit « Ah, le style moderne commence », que finalement il y a beaucoup plus de liberté par rapport au texte.
Exactement.
Est-ce que c'est-à-dire que notamment sur une syllabe, il y a plus de mélisme, etc. Ou, quelle est la différence exactement, et dans le style ancien, qu'est-ce qu'on devait faire?
Alors, ce qu'on appelle le style ancien, c'est un style polyphonique, un peu comme Palestrina. Vous voyez, Palestrina avec... Voilà, des voix comme ça qui créent une polyphonie parfaite qui est le reflet de l'harmonie des sphères. Le style moderne, c'est un style qui est basé avant tout sur la voix soliste, avec un petit accompagnement, soit ce qu'on appelle le récitatif, c'est-à-dire qui suit la déclamation de la voix de manière très claire, soit effectivement toutes ces enluminures qui font que la voix soliste s'émancipe et qu'on est très loin du modèle de la musique polyphonique. Vous voyez ce que je veux dire?
Donc en fait... Un palestrin, on peut couper note après note et ça fait.
Voilà.
Il y a un ensemble cohérent entre chaque voix. À chaque fois qu'on coupe.
Voilà, il y a une verticalité.
Oui, ça, c'est
le style moderne, c'est plus un style vertical du tout. C'est un style complètement horizontal.
Okay.
Vous voyez ? Donc, effectivement, vous avez très bien relevé que dans la deuxième partie du psaume de Monteverdi, on a ces vocalises, on a une grande liberté. Alors, ça suit le texte de près parce que tous ces moyens sont mis en œuvre au service du texte. Mais pas dans un contexte, vous voyez, de vertical comme ça, extrêmement polyphonique, très, très, très. Alors, Monteverdi va rencontrer le pape Paul V avec en poche les Vêpres de la Vierge et la messe in illo tempore, qui est une messe traditionnelle justement dans le style de Palestrina. Donc, il maîtrise les deux. Hein, et dans les Vêpres de la Vierge, il y a un peu les deux mélangés. Et en même temps, il a cette technique parfaite de la. Alors, si vous écoutez l'Orfeu de Monteverdi, donc c'est l'histoire d'Orphée et Eurydice, hein, tout simplement, et bien vous avez des passages où le chœur chante de manière très verticale, notamment au moment où on apprend la mort d'Eurydice, déploration, tout le monde chante à l'unisson comme ça, avec des accords. Et puis vous avez le reste du temps, en fait, les chanteurs qui s'expriment de manière très libre. Hein, et dans les moments de grande colère, ils chantent de manière très rapide, en suivant le débit d'un texte, comme quelqu'un qui serait très énervé. Est-ce que j'ai été assez clair? Voilà, super.
Mais du coup, c'est quand même pas plus vertical le style moderne, dans le sens où c'est pas, ça ne s'appuie pas sur l'invention du continuo. Quand
même... Aussi. Alors, ce qu'on appelle le continuo, c'est le fait d'avoir en fait, des instruments polyphoniques, donc un orgue, un clavecin, un luth, qui va jouer des accords, Et sur ces accords, on va pouvoir se faire déployer une ligne mélodique. Donc ça, c'est effectivement cette époque-là, puisque dans l'Orchestre de Monteverdi, il y a un continuo très développé, puisqu'il nomme les instruments qu'il veut utiliser. Et donc, pour cet accompagnement des voix solistes, on a effectivement l'essor du continuo, qui va durer très longtemps, puisque Mozart l'utilise encore. Hein. Donc ça va durer en gros 200 ans, hein, cette évolution. Voilà, absolument. On est d'accord. Sans le continuo. Alors, oui, on n'imagine pas ce que ça représente. Avant qu'on invente le clavier, on ne pouvait pas entendre une polyphonie, donc plusieurs voix ensemble, sans le faire chanter par des interprètes. L'invention du clavier va tout bouleverser, parce qu'à ce moment-là, on peut maîtriser une polyphonie directement. On peut l'écrire à la table, ce que le compositeur entend dans sa tête, et il peut le tester immédiatement. Donc c'est une invention capitale, le clavier. Et donc il va continuer son essor par la suite avec, effectivement, ce qu'on appelle la basse continue ou le continuo. Donc cette manière, en fait, de colorer avec des accords, comme on fait avec une guitare dans la musique de variété, en fait, hein, tout simplement, et qui permet à la voix d'avoir un support pour se déployer en solo. Oui.
Quand dans une partition il y a écrit continuo, enfin quand on va à un concert et qu'on dit écrit continuo sur le violon, ça veut dire qu'il va y avoir n'importe quel instrument capable de faire des accords.
Absolument.
Ça peut être un piano, un clavecin.
Absolument. Dans Don Giovanni de Mozart, il y a des récitatifs avec continuo. On peut les faire généralement, on les fait au clavecin. Certains chefs les ont orchestrés pour que ce soit joué à l'orchestre. Et ça peut aussi bien être au piano, effectivement, au piano forte dans le cas de Mozart. Il y a un cas très intéressant, c'est la Passion selon saint Matthieu de Bach, où ce qu'on appelle le continuo, réalisé à l'orgue. Alors il y avait deux orgues à Leipzig pour ça, un grand orgue et un petit orgue en tribune de l'autre côté. Et quand le Christ prend la parole, le continuo est pris en charge par les cordes, ce qui crée d'entrée de jeu une différence très importante qui donne au Christ un rayonnement très particulier. Parce qu'il n'est pas accompagné simplement qu'un instrument polyphonique. Le continuo a aussi, ce qu'on appelle donc la basse continue, a aussi une raison d'être pratique, c'est qu'il n'y a pas besoin de noter toutes les notes. On écrit juste la ligne de basse et puis des chiffres qui correspondent aux accords qu'on veut entendre, comme dans la variété, ce qu'on appelle les accords de guitare. C'est un peu la même chose. Donc c'est pratique parce qu'on écrit vite. D'où Händel qui écrit le Messie en 10 jours. Il n'aurait pas pu le faire s'il fallait écrire toutes les notes à chaque fois.
Un peu à partir de ce qui est noté.
Tout à fait.
Il y a une liberté de...
Il y a une certaine liberté, pas dans le choix des accords, mais dans la manière de les faire. Par exemple, si vous faites des accords à l'orgue, vous allez tenir les accords. Si vous le faites au clavecin ou au luth, il faut broder, sinon le son ne tient pas. C'est pour ça que les clavecinistes font tout un tas de trucs, on entend plein de choses, et les organistes restent très calmes. Alors, c'est intéressant d'avoir les deux ensemble. Vous avez l'un qui tient, et l'autre qui fait des choses rythmiquement plus riches. Voilà. Alors, dans le cas de Schütz, si on écoute 3 secondes le concert spirituel de Schütz, là, c'est très clair. On va entendre justement cette basse continue. Là, psaume 51. Voilà, vous allez voir donc les accords tenus et puis la voix qui se déploie au-dessus. Alors, il y a plusieurs instruments qui sont construits au galop. Il y a le luth, il y a un violoncelle qui est sur la basse. Vous voyez le style moderne, à la fin par exemple, vous avez ça. Ah, ça ne va plus marcher. Voilà, un compositeur de la manière plus ancienne aurait écrit quelque chose de beaucoup plus calme et beaucoup plus vertical, si vous voulez. Hein ? Voilà.
Merci beaucoup.
Merci à vous. Merci à Guillemette de m'avoir invité.
chaises quand vous pouvez.
Ah oui, parce qu'il y a des gens qui dorment aussi.